Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30. Sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3.
Le temps d'une pause, respirer, rompre avec son quotidien, rencontrer, échanger. Voilà ce à quoi nous aspirons tous à l'approche de...
L'été !
Les vacances !
Oui, des vacances, c'est ça ! Alors, depuis 1936, on revient quand même assez loin, le Front Populaire, les congés payés, nous aspirons tous à devenir touristes. Mais le tourisme de masse est passé par là, avec ses répercussions sur la population et l'environnement. Les hordes de touristes amènent les hordes de déchets.
De déchets.
De pollution.
J'en passe et des meilleurs. En certains endroits, il y a autant de touristes au mètre carré qu'aux pires heures pleines du métro. Alors peut-être y a-t-il un espace, une façon d'être touriste autrement ? Voulez-vous devenir un touriste équitable, responsable ou solidaire ? C'est précisément le sujet du jour. N'est-ce pas Laurence ? Bonjour.
Bonjour.
N'est-ce pas Alexandre ? Bonjour.
Bonjour Sophie.
Nos traditionnels animateurs, Cyril, bonjour, aux manettes, toujours. Et nous allons traiter le sujet avec notre invité qui est Benoît Sebo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes chargé de développement de l'ATES.
C'est cela.
Et en français, ça donne quoi ?
Ça donne l'Association pour le tourisme équitable et solidaire.
Eh bien, c'est parfait. Et puis, je crois qu'on va pouvoir commencer avec, comme d'habitude, une petite chronique. C'est Laurence qui nous propose sa chronique. Elle va nous proposer, s'il me semble, de partir en Grèce. Et le sujet, c'est comment financer la transition écologique de l'économie.
Oh, oui, parce que... Enfin, entre autres, puisque... Effectivement, je me suis dit qu'on allait parler tourisme aujourd'hui et qu'on pourrait, pour cette chronique transnationale, partir en Europe, en Grèce, tiens, qui a toujours été une destination très prisée des Français. Avec la crise financière qu'ils traversent, les Grecs ont plutôt l'air partis pour camper devant leur Parlement plutôt qu'en croisière. Qu'est-ce que leur proposent le FMI et le Conseil européen ? La décroissance ? Pas vraiment. Plutôt le démantèlement des services publics et le serrage de ceinture pour les salariés. Ça n'empêche pas la dette de la Grèce d'augmenter. Qu'à cela ne tienne, appliquons à tous les pays européens un plan d'austérité. On ne va quand même pas taxer la spéculation financière, les activités polluantes ou, pire encore, convaincre les riches de partager un peu avec les pauvres. Certains veulent des sous pour financer la transition écologique de l'économie, alors qu'on ne sait déjà pas combien va coûter le démantèlement des centrales nucléaires. On est fauché, on vous dit. Mais petite question, est-ce qu'on estime que l'adaptation au changement climatique, les services de santé, l'éducation, la culture représentent des dépenses ou plutôt des investissements pour l'avenir? Et puis, est-ce que nous voulons vraiment subir les politiques d'ajustement structurel qui ont dévasté les pays en voie de développement dans les années 80? Vous savez, ces pays où nous sommes ravis d'aller nous balader pour pas cher, tout en déplorant la pauvreté, les difficultés d'accès aux soins, le mauvais état des routes. Ces pays où nous sommes ravis de partir en tour opérateur ou en thalassa, mais dont nous refusons d'accueillir les réfugiés. Un chiffre terrible. Depuis le mois de février, 1500 personnes sont mortes en essayant de gagner les rives européennes de la Méditerranée. Il y a des personnes qui traversent la Méditerranée pour changer d'air et d'autres qui y perdent la vie. Enfermée dans sa forteresse en décrépitude, l'Europe va aller de plus en plus mal si elle ne retrouve pas le sens de la solidarité à l'intérieur comme à l'extérieur. Enfin, c'est ce que je pense. Alors, parler de tourisme autrement, ce n'est pas aussi frivole que ça pourrait en avoir l'air. C'est aussi permettre aux populations sur place de tirer tous les bénéfices de leur accueil et de la qualité de leur environnement, pardon, et de vivre dignement. Parce qu'on l'oublie quand on prépare sa petite valise. Le tourisme, tu l'as dit Sophie, c'est une activité économique qui peut détruire nature et habitat. Les sacs plastiques, les papiers gras, le bétonnage. Contribuer au développement local, s'inscrire dans le tissage d'autres coopérations. Que ces coopérations soient entre ville et campagne, entre Paris et le reste de l'Île-de-France, par exemple, je crois que Benoît Sebo va nous en parler tout à l'heure, entre Sud et Nord, ou encore entre pays européens.
Merci, Laurence, pour cette introduction.
Oui, donc le thème du jour, tu l'as annoncé, et Sophie également, le tourisme solidaire. Alors l'industrie du tourisme se porte bien. Le tourisme, Benoît, c'est beau, c'est, on dit, 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 12% du PIB mondial, 8% des emplois. Et beaucoup pensent même que c'est un facteur de croissance pour les pays en voie de développement. Mais finalement, la réalité est un peu différente, puisqu'on se rend compte, et je l'ai lu sur votre site pas plus tard que tout à l'heure, que le tourisme profite aux industries du pays du Nord. Non, sans blague. Donc, du coup, dans les années 60, est déjà née l'idée du tourisme solidaire. Et vous, c'est une initiative plus récente. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de voyager de manière équitable et solidaire ?
Alors, en tout cas, le projet ATES, l'association ATES, est effectivement assez récente, puisque sa création, c'est 2006. Pas trop près du micro, je ne sais jamais.
Il
faut beaucoup particulier, être un peu près, mais pas trop non plus. Donc effectivement, le projet ATES est très récent. Néanmoins, les membres qui la composent sont dans le tourisme solidaire depuis bien plus longtemps, avec des membres fondateurs qui sont créés fin des années 70.
C'est une initiative... Donc,
Juste le principe, c'est en fait, nous, on a un réseau d'acteurs, donc avec un certain nombre de voyagistes qui proposent des séjours sur les principes du tourisme équitable et solidaire et qui, du coup, se sont fédérés autour d'une charte commune avec des critères, des engagements et des indicateurs à tenir compte dans la façon dont on construit son séjour équitable et solidaire. Donc, les principes, pour essayer de faire simple, tournent autour de trois grands principes, trois grands engagements. Donc, à ce jour, il y a 23 associations qui composent le collectif de l'ATES, donc qui sont des associations qui font la promotion du tourisme équitable et solidaire et qui proposent des séjours dans plus de 70 pays aujourd'hui.
Ces associations qui sont elles-mêmes des voyagistes ?
Qui sont des voyagistes, qui sont ce qu'on pourrait appeler dans le secteur du tourisme des tour opérateurs, mais à une échelle beaucoup moindre que les tour opérateurs qu'on entend parler de
Souvent sous forme associative.
La spécificité de l'ATES, c'est effectivement que l'ensemble de ses membres, qui sont voyagistes et qui du coup proposent des séjours, qui sont des opérateurs de voyage, sont à ce jour des associations.
Ça fait partie des critères que
C'est pas un critère pour adhérer à l'ATES. C'est aujourd'hui une spécificité. L'ATES est issu d'un groupe de travail qui a été initié par l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme. D'accord. Donc où là, effectivement, le critère d'entrée de l'UNAT, c'est le modèle économique d'être une association de loi de 1901. L'ATES, ce n'est pas un critère. On n'est pas obligé d'être sous modèle économique d'association.
Alors, c'est quoi les trois grandes catégories dont vous parliez tout
à l'heure ? Les trois engagements, en tout cas, qui définissent le tourisme équitable et solidaire tel que nous, en tout cas, on l'entend, c'est l'application du commerce équitable à l'activité touristique. Donc là, c'est notamment beaucoup axé sur la notion de partenariat qu'il y a entre le voyagiste, le tour opérateur, et son partenaire qui accueille les touristes. Donc là, c'est une relation évidemment à long terme, une relation équilibrée, une relation où les prestations touristiques sont justement payées.
Comment on évalue un critère comme ça ?
Ça, c'est dans la relation avec le partenaire et notamment sur les factures qui sont émises entre les différents parties prenantes. Notion-là est assez importante. Peut-être je rentrerai plus dans le fond tout à l'heure en appuyant sur un exemple assez précis qui est l'exemple du Mali, où en ce moment il n'y a plus du tout de touristes. Et donc cette notion de partenariat de long terme, d'apporter aussi des solutions quand il n'y a plus de tourisme, parce que le tourisme c'est aussi un effet de mode. Donc nous on est aussi là pour essayer d'avoir des réponses. C'est pas toujours évident, d'accord, on n'a pas toujours réponse à tout. Mais en tout cas, on essaye d'apporter des réponses, et notamment cette notion de partenariat avec ceux qui vont accueillir les touristes, les locaux, les communautés qui accueillent les touristes, est assez, assez fondamentale.
C'est un petit peu comme ce qu'on a évoqué dans une émission précédente avec les AMAP. C'est construire des partenariats aussi de long terme entre agriculteurs et consommateurs, disons, qui permettent aussi d'amortir des effets de crise.
D'accord, exactement. Donc c'est ça, c'est que ce soit plus un partenariat qu'un commerce, quoi.
Oui, une des vraies spécificités, c'est que nous, on aime bien dire à la thèse que les voyagistes, c'est un peu des artisans du voyage. C'est-à-dire que vous passez avec n'importe quel membre de la thèse, il est capable de vous dire, voilà, vous allez partir en Équateur, votre guide, ce sera Pedro. Ils se connaissent, c'est des relations d'humain à humain, pour le coup.
Mais en même temps, il y a la création d'une véritable filière.
Dans quel sens ?
C'est une filière touristique.
Alors, Ouais, alors, c'est une filière, c'est presque une
micro-filière.
C'est une niche, c'est une micro-niche. On parlera peut-être un peu chiffres tout à l'heure, mais c'est vrai que l'activité touristique et le marché de tourisme équitable et solidaire est infinitésimal au regard du tourisme international global.
Oui, d'accord.
C'est quoi, c'est 3 ou 4 000 départs en Île-de-France sur...
Alors,
c'est un peu plus.
Sur les membres de la TES, c'est en 2009 5 300 voyageurs qui sont partis avec les membres de la TES.
Ça représente quel point, c'est quoi le pourcentage
si on considère le tourisme d'affaires, c'est 10 millions de Français qui franchissent la frontière par an. Donc, pour vous dire la goutte d'eau dans l'océan du tourisme qu'on représente.
C'est chouette, ça veut dire qu'il y a une très très forte marge de progression.
Ah oui, ouais, on a de la marge, mais ça c'est
sympa. Il y a un marché, oui.
Une des deuxièmes spécificités aussi des principes, des engagements de la thèse, c'est l'aspect, le pendant de la solidarité internationale. Où dans les prix des séjours qui sont proposés par les membres de la thèse, il y a une partie du prix qui est destinée à un fonds de développement pour participer au financement de projets de développement organisés, gérés par les communautés locales qui définissent quelles sont les priorités de développement pour leur territoire. Et là, c'est vraiment de dire que le tourisme tel que nous le pensons doit pouvoir faire tache d'huile, entre guillemets, et doit pouvoir participer au développement local du territoire.
D'accord.
Et c'est-à-dire qu'il y a des habitants qui sont... dans des communes qui ne participent pas à l'activité touristique parce qu'ils ne sont pas guides, parce qu'ils n'ont pas ils ne proposent pas de restauration, parce qu'ils n'accueillent pas les touristes chez eux. Donc ils sont hors du circuit touristique, soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens, soit parce qu'ils n'en ont pas envie. Et du coup, c'est de dire qu'ils ne sont pas spectateurs de ce tourisme qui finalement agit devant eux et que ce fonds de développement puisse participer à des projets qui ne sont pas directement ou foncièrement liés à l'activité touristique. Et donc ça permet de ce que j'expliquais tout à l'heure, de faire un peu tâche d'huile.
D'accord.
Donc ça, à la thèse, on a défini des montants planchers. Ça représente en moyenne 4% du prix du séjour avec aérien qui viennent financer ces projets-là. Qu'est-ce que je dis, je ne
Alors
sais
vous
plus.
Alors, on est au deuxième volet, donc on attend avec impatience le troisième.
Finissez le deuxième, voilà.
J'essaie de faire ça très académique.
Oui, non, mais c'est bien. Non, mais une radio, on est une radio très académique.
C'était le bac ce matin.
On vous a dit trois parties, trois sous-parties.
On compte sur nos doigts, ça ne se voit pas, mais effectivement.
Donc, le premier volet, je rappelle pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi, c'est le volet un peu partenariat. Le deuxième volet, c'est engagement sur le fait que les fonds récoltés servent une économie locale. Finalement.
Même si dans son esprit, l'ensemble participe au développement et à l'économie locale. C'est-à-dire que, grosso modo, les guides sont locaux, on consomme local. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas manger un hamburger dans le fin fond de l'Amazonie, dans la mesure du possible. Donc voilà, c'est quand même essayer de consommer des produits qui sont en plus généralement produits par les personnes qui accueillent les touristes, puisque généralement aussi, c'est des personnes dont l'activité touristique n'est pas leur activité première. Généralement, ce sont souvent des agriculteurs qui aussi développent une activité touristique annexe pour avoir des débouchés supplémentaires. Et ça, c'est assez important aussi dans l'esprit de dépendance à cette activité touristique. Il n'empêche qu'il y a des guides qui sont guides, donc qui font de l'activité touristique, leur métier, et qui sont de fait très liés à la saisonnalité que représente le tourisme. Je voulais brièvement terminer sur le fait qu'aussi une des spécificités, et la dernière du coup, donc la troisième, c'est l'aspect de... On est très lié à l'économie sociale et solidaire, en ce sens qu'il y a une profonde transparence de l'activité des membres de la TES, qui s'engage, quand vous partez avec un des membres, il est à même de vous dire, voilà, dans le prix de votre séjour, il y a tant pour le billet d'avion, il y a tant pour les prestations touristiques, tant pour le fonds de développement, tant pour notre marge à nous de fonctionnement, tant pour le fonds de développement qui est géré par tel et tel partenaire pour tel et tel projet. Et c'est bien de dire que le pendant de l'économie solidaire, de remettre clairement l'homme au cœur de la dynamique économique.
Donc c'est une transparence, en fait.
C'est la, ou la c'est, femme.
Je n'ai pas compris la
oui,
dernière
l'homme, phrase. Je préfère dire l'humain, vous avez voilà. excessivement raison.
On est quand même à égalité dans le
voilà, tout à fait, non, mais moi je vis moi-même avec une féministe, donc j'entends tout à fait ce que vous dites.
Ah, je pensais que vous alliez dire que vous-même aussi vous étiez féministe.
Profondément, ah, voilà. Profondément féministe.
Parce que souvent, ces activités, c'est aussi des activités qui sont conduites par les femmes. Peut-être pas les activités de guide, mais en tout cas, tout ce qui a trait à l'accueil, à l'hébergement, à la restauration, l'artisanat local, etc.
Oui, très bien.
Ça laisse toujours un petit moment. Avec Alexandre, il y a toujours un petit moment de battement quand on parle de genre, parce qu'il a peur, en fait. Voilà.
Bon, donc, alors, trois volets, trois critères, mais est-ce que ces critères, ils sont...
Trois engagements déclinés en 10 critères et 29 indicateurs. Voilà,
ça, c'est des engagements ouais. assez globaux. Les engagements... Ensuite, il y a des critères un peu précis pour les évaluer.
Voilà, il y en a 10. Alors, je vous engage à aller sur notre site où tout est...
Tout c'est quoi l'adresse de ce site d'ailleurs ?
Ah, c'est www.tourismesolidaire.org. Il vient d'être fait, il a été mis en ligne hier, donc il est tout nouveau, tout beau, tout neuf.
On peut aller regarder voilà, d'ailleurs ses destinations hein, quand on rêve, quand on se dit ah, je partirais bien, je sais pas moi.
Oui, c'est un site qui renvoie vers les voyagistes par une sélection de pays, si vous dites où vous voulez partir.
Et le type de voyage.
Le type de voyage que vous voulez faire. C'est un site où il y a pas mal de ressources documentaires aussi. Sur.
On est quand même sur un sujet quand on parle d'équitable et solidaire. Effectivement, on essaye de donner effectivement de l'info. Et aussi, l'un des engagements qui est important pour nous, c'est la préparation et l'information au voyage. C'est-à-dire qu'avant chaque départ, ça peut prendre diverses formes selon les membres, mais il y a une préparation au voyage. Alors, soit c'est de la ressource documentaire, comme nous, on peut essayer de fournir sur notre site, mais ça peut aller jusqu'à la réunion de préparation collective avant le départ. Et de dire que le séjour, finalement, et nous, c'est ce qu'on revendique, commence dès le fait qu'on a choisi de partir en voyage. Ça commence pas simplement en sortant de l'avion.
C'est ce que j'essaie d'expliquer à ma femme, mais Laurence, tu vas encore me sauter dessus quand je lui dis qu'il faut toujours prévoir de partir 6 mois avant. Parce que du coup, pendant 6 mois, tu as l'impression de voyager déjà, tu vois. Et pas la veille, tu vois. Benoît est d'accord avec moi là-dessus. Bon, bref.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des destinations qui se dégagent, du coup
Clairement, la première destination, et de très très loin, c'est le Maroc.
D'accord. Et pourquoi ça ?
Ça représente, sur les 5300 dont je parlais tout à l'heure, c'est près de 2000 voyageurs qui partent au Maroc.
Impressionnant, 40%.
Ouais, c'est très
un petit témoignage. J'ai eu l'occasion d'aller au Maroc pour un événement autour de l'économie sociale et solidaire à Tafraout. Donc, c'est dans les terres, hein, à peu près à la hauteur d'Agadir. Et autour d'Agadir, il y a des initiatives de tourisme solidaire. Donc, j'ai pu effectivement rencontrer à la fois d'anciens migrants qui ont mis en œuvre avec des séries d'aides hein, et d'associations qui les accompagnent là-dedans, des structures d'hébergement. Des gîtes en fait, hein. Très souvent accompagnés de jardins maraîchers en bio, avec un pourcentage donc des fonds qui sont dédiés à des projets de développement local destinés aux femmes en l'occurrence. Et c'est très intéressant de comparer ce type d'offres touristiques à ce qu'on trouve à quelques kilomètres de là, à Agadir, où on est face à une côte complètement bétonnée, encore une fois, avec des grandes tours, où on pourrait être un peu n'importe où, finalement, sans aucune relation réelle à l'histoire, au paysage, et où on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui viennent soit en voyage, soit qui viennent s'installer au moment de leur retraite. Donc on peut tout à fait, dans ce coin-là du Maroc notamment, il y a vraiment des offres très bien organisées. Pays du Safran, Pays de la Rose.
C'est Migration-Développement qui fait la promotion de ce, typiquement ce séjour-là.
Voilà.
Dont
vous parlez. Et ça permet.
Question désagréable, voilà. Moi, enfin, en pensant à ça, on parle de tout ça, mais toutes les autres associations de voyage, comme tu dis, c'est tout bétonné à côté, etc. Il y a des grands voyagistes qui ne sont pas à développement durable, etc., mais qui signent de plus en plus des chartes. Dans ce sens-là. Donc, comment se différencier par rapport à ces gros voyagistes qui ne transportent pas 5000 personnes, mais beaucoup plus, Certes, il y a peut-être un côté greenwashing, mais de plus en plus, ils essayent d'associer les populations locales.
Ouais. Alors sur ce sujet-là, c'est heureusement tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, et de fait, il y en a effectivement de plus en plus qui se revendiquent du tourisme durable, du tourisme responsable. Moi, je trouve ça profondément bien.
Ça rentre dans vos critères à la limite ou quand les fameux 10 critères
Qu'est-ce qui
rentre Est-ce que les chartes qu'ils signent, ça peut correspondre d'une certaine façon Et en quoi ça s'en démarque sinon?
Nous, ce qui est intéressant, c'est que c'est une charte qui a été construite collectivement, qu'on est sans cesse en discussion et en questionnement sur ce qu'on a mis en place comme procédure d'évaluation, de garantie, parce que nous, on est loin d'être un label, c'est pas du tout notre projet. Par contre, on a un collectif qui se revendique, qui se reconnaît autour de cet outil-là. La charte est un outil. Ce qui en découle derrière de l'évaluation, on a notamment maintenant depuis 3 ans, et grâce au soutien de la région Île-de-France, mis en place un projet qui est porté par Amandine Souton, qui a un partenariat institutionnel et citoyen pour la recherche et l'innovation, donc c'est un PICRI, donc elle est en thèse et en même temps elle fait de la recherche-action, et son sujet c'est de co-construire avec les partenaires de nos membres, donc les partenaires dans les pays qui accueillent les touristes, de co-construire cet outil qui existe déjà, qui est la charte, avec, je vous parlais tout à l'heure des 10 critères et des 29 indicateurs, de refondre un peu cet outil-là avec le regard aussi de ceux qui accueillent les touristes. Et donc elle va sur le terrain, elle part en mission, elle est déjà partie en mission en Afrique subsaharienne, elle est partie en mission au Maroc, elle part bientôt au Pérou et en Inde. Donc pour re-questionner cet outil-là. Et nous, on a de fait un regard après sur les pratiques des membres de la TES, mais en aucun cas, on est un label. Après, il y a ATR, hein, Agir pour un tourisme responsable, qui travaille avec l'AFACAF Nord, qui se revendique du tourisme responsable et qui donc sont dans un processus de certification, qui nous est pas tout à fait notre démarche. Alors après, il y a tout un tas de chartes effectivement qui sont signées. Moi, je ne sais pas après dans quelle mesure ça va au-delà de la déclaration. À minima, ce que je trouve bien, c'est qu'à partir du moment où on écrit quelque chose, il y a quelque chose qui est écrit. Donc on peut se référer à quelque chose. Et la différence qui est faite par rapport au commerce équitable, c'est que le voyageur fait partie intégrante du produit. Donc si on lui vend un produit, un séjour responsable à la rencontre des cultures, on va partager un quotidien, et que sur place, il ne se passe pas ça, ce sera le premier évaluateur quelque part. Donc moi, je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui s'engagent de plus en plus. Après, effectivement, quand on fait partir 50 voyageurs sur un territoire restreint, c'est compliqué de favoriser l'échange, de favoriser la rencontre, de pas saturer le territoire. C'est compliqué. Donc nous, typiquement, on est dans un modèle économique qui est assez particulier, puisque on réduit aussi nos groupes. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup avec de l'individuel et des familles, et au maximum des groupes de 10-12 personnes.
Voilà, c'est intéressant ce que tu dis là, ce que vous dites, pardon, c'est de s'arrêter sur ce que c'est qu'un voyage solidaire. Parce que je ne voudrais pas que nos auditeurs pensent que c'est un voyage humanitaire. C'est pas du tout pareil. On ne demande pas à nos voyageurs vous ne demandez pas aux voyageurs d'aller faire des missions humanitaires. C'est pas du tout ça, c'est du tourisme. Les gens sont là pour visiter, pour se reposer. Donc ça ressemble à quoi, un voyage solidaire?
C'est une excellente précision, parce que souvent, quand on est interpellé par les médias, beaucoup, on nous dit, alors voilà, je vais faire un sujet, j'ai besoin d'aller au Pérou ou au Bénin et de voir un touriste qui donne des cours de français ou qui construit une église ou qui met la piqûre dans le bras du petit enfant, et comme ça, c'est génial. Donc évidemment, nous, c'est pas du tout notre vision du tourisme. Déjà, tourisme humanitaire, c'est deux choses, c'est deux métiers. Nous, on fait pas l'humanitaire, clairement pas.
C'est des vacances.
En fait, le tourisme équitable et solidaire se définit plus dans la façon dont le produit est monté, plus que dans sa formule. C'est-à-dire que il y a toutes formules qui sont proposées par la monde. Ça peut être de la randonnée, ça peut être du trekking, ça peut être du séjour en immersion dans un village à partager le quotidien, ça peut être de l'itinérant, ça peut être du très contemplatif, ça peut être du très participatif. Voilà, il y a vraiment toutes formules qui sont proposées. Par contre, c'est de la façon dont est construit le séjour, et là, je renvoie aux engagements dont je parlais tout à l'heure, c'est plus ça qui compte dans le fait qu'on parle de tourisme équitable et solidaire. Parce qu'après, quelle que soit finalement la destination, bah, ce sera des voyages qui seront en petits groupes, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est au maximum 10-12 personnes. C'est généralement loin des grandes infrastructures hôtelières et touristiques, un peu hors des sentiers battus, comme on aime à dire. Même si, évidemment, quand on va au Pérou deux semaines, il y a des chances qu'on passe pas loin du Machu Picchu, parce qu'un voyageur, quand il part au Pérou et qu'il a fait 10 000 km, et ben quelque part, oui, il a aussi, il a bien évidemment envie de partager son quotidien avec les Péruviens, mais il a aussi envie de voir le Machu Picchu, et ça peut se comprendre.
C'est incontournable.
Il y a des choses qui, effectivement, sont incontournables. Après, il faut gérer les flux. Et c'est ça qui est, qui est aussi un vrai travail d'écoute, d'attente, de discussion entre les différents partenaires.
Et qu'est-ce qui peut se passer après dans les voyages que vous proposez ? On a parlé de l'avant, on a parlé du pendant. Est-ce qu'il y a des liens qui sont entretenus ?
La soirée diapo, traditionnelle. Hein, entre...
la fameuse. La soirée diapo, c'est... maintenant il y a des numériques, hein, vous savez.
C'est oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, c'est soirée Photolia, on est chacun chez soi, c'est vachement sympa.
C'est la soirée Flickr. Hein.
Voilà, non, mais maintenant que j'ai été désagréable, je commence à imaginer des choses et à me dire qu'il y a peut-être des liens qui sont entretenus après.
Non, mais de fait, quand on. Mais c'est... après, c'est. C'est une réponse qui n'est pas évidente, parce que souvent, quand les voyageurs partent comme ça, qui partagent le quotidien, et du coup, il y a des liens, évidemment, qui se créent entre les personnes, et que l'humain est quand même bien fait, et que du coup, il y a forcément des sentiments qui se créent, et du coup, une espèce d'envie de sauver le monde, faut que j'aide, faut que je participe, voilà. Et du coup, cette énergie-là qui est dégagée post-voyage, elle n'est pas toujours évidente à canaliser, parce que ce n'est pas après, en revenant chez soi et d'envoyer des cahiers et des crayons, je caricature excessivement, mais ce n'est pas forcément ça qui aide. Donc nous aussi, on a un travail avec les membres peut-être aussi d'orienter, d'informer les voyageurs qui peuvent aussi s'impliquer ici. Typiquement, tout à l'heure, on disait que les membres d'hôtesse, ce sont des associations. Rien n'empêche de devenir adhérent de l'association pour faire la promotion du voyage qu'on a vécu, des personnes qu'on a rencontrées, de participer au développement du village par un biais qui est peut-être un peu moins direct que d'envoyer de l'argent, que d'envoyer des livres ou que d'envoyer des crayons, mais qui peut-être participe un peu mieux à un développement qui est en tout cas géré, co-géré par les populations.
On va faire, il est 9h, bientôt 9h, on va faire une petite pause traditionnelle musicale. Est-ce que les équipes sont prêtes ? Alors aujourd'hui, les équipes sont dans les studios. Est-ce que je peux faire une interview avec des gens qui sont dans les studios ? Ou est-ce que vous avez besoin d'un casque ? Avec un casque, ça ira peut-être. Bon, alors je vais présenter aujourd'hui notre invité musical. C'est un groupe qui s'appelle Loki Starfish. Entre-temps, je vous fais venir un casque pendant qu'il joue. Peut-être que vous avez besoin d'un casque, tu pourras amener ton casque. Non, c'est pas la peine. Bon. Mais je peux quand même poser des questions à Jérémy ou pas ? D'accord, ok. Bon. Alors, Loki Starfish, c'est un groupe parisien de 5 membres. Jérémy, tu m'entends ? Parce qu'exceptionnellement, il est dans la cabine de tes.
Oui, je t'entends.
Donc c'est un groupe parisien de 5 membres qui fait de l'électropop, une musique assez envoûtante en anglais. Et votre album, alors c'est un projet assez solitaire, vous m'avez expliqué au début, et puis vous êtes finalement accompagné par des musiciens, vous êtes 5 aujourd'hui.
Oui, tout à fait, c'est ça. Enfin, j'ai commencé seul le projet, et en fait, pour les besoins de la scène, au départ, j'ai réuni des musiciens avec moi, et c'est finalement devenu un groupe à part entière, en fait.
C'est un groupe qui date de combien de temps, du coup ? Il date de quand, cette formation ?
La formation live date de 2009. Le projet a commencé vraiment en 2008. Et depuis, les derniers musiciens sont arrivés fin 2009. Quoi.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez vos chansons ?
C'est une question très large. c'est énormément de choses. C'est beaucoup de choses qui sont attrayées aux ressentis, à des ressentis très profonds, à des blessures ou à des espèces d'états mentaux et de conscience particuliers, de ceux qui sont notamment des moments charnières, en fait, des moments où on bascule vers une forme d'élévation personnelle ou d'amélioration de soi, ou des moments en suspens comme ça.
Et donc, vous avez un album qui sort dans quelques jours, ça sort le 20 juin, donc là, on doit être très bientôt, quoi,
ouais,
qui s'appelle Love Like Banners. Et vous ferez notamment un concert le 8 juillet au Combustible à Paris dans le 12e pour fêter notamment la sortie de cet album. Il y a d'autres dates. On rappellera l'adresse de votre site. On peut la citer tout de suite d'ailleurs. C'est quoi l'adresse de votre site ?
C'est luckystarfish.com, www.luckystarfish.com.
Voilà. Luckystarfish, ça s'écrit L-O-K-I, plus loin starfish comme star et fish quoi, accroché. De toute façon, sur notre site Zoom Écologie, on met les liens vers les sites. On va écouter, comme c'est la tradition, un premier titre en live, un peu acoustique avec un synthétiseur, toujours dans des conditions assez difficiles. Hein. Je m'excuse auprès des musiciens, mais le studio n'est pas du tout équipé pour recevoir de la musique, mais c'est toujours un moment très agréable.
Et en même temps, Cyril nous a un peu sauvés aujourd'hui.
Donc. Et Cyril qui a dit nous a un peu sauvés. Là. Donc on écoute un premier titre en live. Et on écoutera en fin d'émission un deuxième titre extrait directement du CD qui va sortir dans quelques jours. Est-ce que c'est quoi le nom du titre qu'on va écouter ?
Il s'appelle On the Verge. C'est le morceau qui clôture l'album en fait.
C'est le dernier morceau de l'album. Alors tu es prêt, Jérémy ?
Oui, je suis prêt.
D'accord. Eh bien c'est parti, on t'écoute.
You got this sense deep inside that the days to come are yours. You get tense and uptight to march proud and grateful, and a sun-fed desire hung strong on your heart, complicates the way you're in love with life. I realize as the echo strikes that resonance is a value none shall deny. Breathing through my will, it travels through my bones, appears to my inner perception as a tree of life and sound that make concrete home for my thoughts. Deflowers my atomic rain from the minerals of my nails to the molecules of my blood. Makes me vibrate all the way unabashed and pure. These are large sounds vowed to my inner transmission. They are crystal knives tuck obvious into conscience. Chromatic chills and dental keys, evident rain that governs in silence, dwelling down, marching peace, rain of evidence, ecstatic void, sound through wax, thoughts echoing, realm of evidence, plastic eternity. Dwelling down, peace marching. Rain of evidence, ecstatic void. Sound through us, thoughts echoing. A realm of silence, plastic. Eternity. Make room for pleasure and truth. Make love for one you fear. Indulge your forthcoming dreams with sips of fluent happiness. Choose a point on your inner horizon. Convert your lips to kisses and radiate humble but true.
Merci Jérémy, c'était Lucky Starfish. Donc toujours un exercice difficile de jouer comme ça dans une cabine. Mais...
Oh, oui, effectivement, surtout que j'ai préparé exprès pour l'émission, parce que normalement, en version acoustique, j'aurais pu le faire avec Donatien, mais ils sont en concert en ce moment même au Green Room avec leur autre groupe qui s'appelle Infecticide. Et voilà, je recommande ce groupe qui est vraiment très cool, qui n'a rien à voir, beaucoup plus drôle et beaucoup plus déluré. Mais en tout cas, voilà, normalement, on joue à plusieurs. Là, c'était un peu pour la circonstance, très minimaliste.
Et oui, parce que Loki Starfish, c'est pas de la musique drôle, on l'aura compris. C'est pas le but.
C'était sympa quand même.
Mais je rappelle qu'on est quand même sur Fréquence Paris Pluriel et qu'ici, on fait de l'électropop acoustique, donc c'est quand même pas si souvent. Ouais. Bel exercice. Je précise qu'il y a des très jolis clips sur votre MySpace à regarder. Sur votre site, j'imagine aussi. Voilà, vous êtes en concert le 8 juillet à Paris.
Tout à fait.
Et là, votre album sort le 20 juin. Il s'appelle Love Like Banners chez Mosaic Distribution, c'est ça ?
Exactement, c'est exactement ça.
Bah, merci beaucoup. On écoutera un titre tout à l'heure. Le titre, ce sera quoi, le titre qu'on écoutera en fin d'émission ?
Ce sera Scars and Promises, voilà, qui est le premier titre de l'album, pour le coup, le titre d'ouverture, et voilà, que j'ai écrit avec Michael Durand, qui a participé à pas mal de morceaux de l'album. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, merci Jérémy. Bonne continuation.
C'était une belle performance.
Ouais. Bon. Alors, j'ai envie qu'on voyage un peu. Benoît, vous vouliez nous parler du Mali tout à l'heure.
Oui, je voulais vous parler du Mali pour deux choses. Moi, j'y suis allé à titre professionnel en octobre. Et forcément, c'était la première fois que j'y allais. Quand on revient d'un pays comme ça, on est toujours un peu bouleversé, émerveillé et questionné, forcément. Et donc, du coup, je voulais faire un petit focus sur le Mali parce que c'est assez compliqué en ce moment. Tous les pays du Sahel souffrent énormément des problématiques politiques, terroristes, etc. Et du coup, bah, c'est une zone assez sinistrée touristiquement.
Il n'y a plus beaucoup de touristes.
Là. Mali... quasiment plus, Niger, plus du tout, Mauritanie, beaucoup d'annulations, Burkina Faso, c'est compliqué, voilà, donc c'est vraiment une zone géographique où là, le tourisme, qui était quand même une des premières sources de devises étrangères pour beaucoup, je mets de côté le Niger avec le pétrole, mais sinon, pour beaucoup d'autres pays, le tourisme était quand même une grosse source de...
Il n'y a pas de tourisme parce que les gens ont peur d'y aller là-bas, c'est justifié cette peur ou...
C'est, encore une fois, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Maintenant, moi, je trouve ça assez compliqué quand on va sur le site du gouvernement et de conseil aux voyageurs d'afficher, de rayer de la carte un pays pour diverses raisons. Je pense qu'effectivement, faut pas nier qu'il y a des zones dangereuses. Maintenant, on peut pas généraliser à l'ensemble, à l'échelle d'un pays... quand dans le nord il y a des problématiques terrorisme ou autre ou politique dans le sud du pays ça peut très bien se passer. Typiquement moi j'ai passé 10 jours dans la région de Kaï, donc assez éloigné de la frontière nigérienne et du nord du Sahara malien. Et voilà, j'ai passé un séjour très tranquille et à aucun moment on a senti quelque tension que ce soit. Maintenant, évidemment, faut faire attention, faut être assez vigilant. Néanmoins, l'avantage, j'en parlais tout à l'heure, qu'ont aussi les partenaires avec qui on travaille, on est en dialogue souvent, on se connaît. Il n'y a aucun intérêt à envoyer des touristes dans des endroits qu'ils craignent. Ce serait les premiers à dire non, venez pas. Par contre, voilà, depuis la loi Kouchner, si y a un touriste qui part, toute la responsabilité est sur le TO, ce qu'on peut comprendre, mais le TO tour opérateur. Mais du coup, ça effraie les touristes. Donc voilà, il y a quand même des coins absolument merveilleux dans la région de Ségou, au pays d'Ogon, c'est magnifique. Et pourtant, j'ai pas ouï dire de problèmes majeurs dans ces régions-là qui sont pourtant signalés en rouge sur le site du ministère. Maintenant, voilà, c'est une question compliquée.
D'accord. En même temps, est-ce que c'est, j'ai envie de dire, pour amener les gens à faire du tourisme solidaire, est-ce que c'est vraiment la première destination vers laquelle il faut qu'ils aillent ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils commencent par des destinations moins risquées
Comme l'île de France, par exemple. Non,
la belle transition. La belle transition.
Voilà, par exemple, on n'est pas obligé forcément.
Le voyage commence en bas de chez soi, c'est ça que vous voulez dire.
Parce que, par exemple, il y a plein de personnes qui sont originaires de la région de Caille qui vivent en Île-de-France et ça peut être une très bonne façon en rencontrons les ressortissants maliens qui vivent en Île-de-France. C'est une très bonne façon aussi de se préparer à voyager et à aller au Mali pour voir comment les choses se passent sur place.
D'ailleurs, le dernier festival Étonnant Voyageurs qui se passe à Saint-Malo toutes les années, le sujet c'était Ville, Monde, Culture Urbaine. Donc on est en plein dans le sujet là aussi. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites en Île-de-France? Est-ce qu'il y a des adhérents
qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de ces frontières? Il y a des choses à l'intérieur de nos propres frontières pour faire du tourisme. On fait du tourisme en France aussi.
Oui, alors évidemment, on n'est pas obligé de partir au Mali pour faire du tourisme équitable et solidaire. Bien qu'en 2010, le Mali, c'est la deuxième destination après le Maroc vis-à-vis des membres de la TES.
C'est quand même voyageurs, c'est quoi?
Alors, non, c'est 390. Pour vous dire l'espace qu'il y a entre les deux. Oui. Donc évidemment, on peut aussi voyager en bas de chez soi, et notamment donc depuis début 2010, la TES est sur un projet sur l'Île-de-France, donc là qui a été en partenariat aussi avec la région Île-de-France, qui nous a soutenus pour organiser, enfin faire profiter l'expérience de réseau qu'a la TES pour enclencher une dynamique d'acteurs qui proposent un tourisme, une alternative au tourisme traditionnel en Île-de-France, qui est la région la plus touristique au monde quasiment, et donc de proposer voilà des actions en Île-de-France qui sortent un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc on a réuni un certain nombre d'acteurs, donc il y a eu un travail aussi d'identification avant, hein, de qui fait quoi, comment on se reconnaît, donc aussi une charte, hein, il y a une charte francilienne du tourisme responsable ici et là-bas, parce qu'on est vraiment sur ces deux pendants-là, avec Laurence en parlait tout à l'heure, on a une spécificité en Île-de-France de population migrante assez importante. Donc le ici et là-bas est très présent quand on parle de tourisme. Et donc, pour faire concret, hein, aller à la rencontre des habitants, c'est aussi de dire on n'est pas obligé d'aller à la Tour Eiffel. Voilà, à Paris, il n'y a pas que la Tour Eiffel, il n'y a pas que les Champs-Élysées. Il y a aussi des coins de Saint-Denis, du 18e, du 19e qui sont magnifiques. Rien que moi, là, pour venir ici, je suis passé par les petites villes là, c'est absolument merveilleux, je ne connaissais pas. Et donc, nous, on a des associations, je pense là comme ça à SAS Visite ou à Bastina, qui proposent des visites, des balades qui vont en fait à la rencontre des habitants. Donc c'est très proche de ce qu'on fait, hein, à la rencontre, l'échange, faire participer le territoire à l'activité touristique. C'est aussi des principes du tourisme participatif, qui est un peu
Laurence lève le doigt, comme
à l'école.
Voilà, tout à fait. Je suis allée me balader autour de Jourdain avec 16 visites. Et c'était tout à fait passionnant parce qu'on rencontre des habitants. Je suis rentrée dans une boutique de commerce équitable. J'ai découvert des petits trucs que je ne connaissais absolument pas, alors que je suis parisienne, quoi. Et tout d'un coup, en une après-midi, j'avais l'impression effectivement d'avoir fait un grand voyage. Et plutôt que traverser un quartier pour me rendre d'une destination A à une destination B, j'ai pris le temps de flâner en étant gentiment guidée. Et ça m'a permis de découvrir plein de choses.
On a vraiment des quartiers vivants avec voilà, il y a différents acteurs d'un quartier, du petit commerce aux habitants eux-mêmes. C'est ça qu'on redécouvre des endroits absolument insolites. Et donc ça va de la balade, à la visite. Mais nous, dans les acteurs qu'on a aussi recensés en Île-de-France, on a des chambres d'hôtes qui sont sur une démarche d'éco-responsabilité, où là aussi, l'aspect d'accueil est assez important. Je vous le disais d'ailleurs, dans l'activité des membres de la TES, qui est beaucoup dans les pays à l'international, l'aspect d'accueil chez l'habitant est très présent aussi. C'était cohérent aussi pour nous de mettre autour de la table ces acteurs de la chambre d'hôte.
En France, il n'y a pas que l'Île-de-France. Vous référencez aussi des voyages.
Vraiment un projet qui a été piloté par la TES, donc avec un peu ce laboratoire de l'Île-de-France, et notamment avec une approche aussi autour des migrants, et de dire que on peut aller au Mali en passant le périph' et en allant à Montreuil. Et donc, il y a tout un projet qui est en train de se monter autour de cet axe-là. Donc, avec aussi, je pense, à Bastinia, qui travaille beaucoup avec les migrants. Mais évidemment, nous, au sein de la thèse, il y a des membres qui proposent de plus en plus la France. C'est-à-dire que quand on regarde, entre guillemets, le catalogue de la thèse en 2008 et qu'on regarde le catalogue de la thèse en 2009, clairement, la destination France-Europe occidentale s'est de plus en plus développée.
Pour quelle raison ?
Je pense qu'il y a aussi le vous savez, on est beaucoup questionné sur le pendant de bah oui, mais du coup, vous prenez l'avion et donc du coup, c'est pas très responsable, etc.
Donc il y a une sensibilisation qui augmente, vous croyez ?
Oui, et puis je pense que ça c'est une offre qui correspond à une demande. Je pense que les gens aussi privilégient des destinations courtes parce que ça peut permettre de partir un peu moins longtemps. Tout le monde n'a pas 3 semaines pour partir. Tout le monde n'a pas le budget. Hein. Je rappelle qu'il y a quand même très peu de monde qui partent à l'étranger en vacances. Donc on est quand même sur une
triche.
Ou qui partent en vacances tout court. Bien que qu'en début d'émission, on ait tapé sur les doigts du tourisme de masse et il y a quand même eu à la décharge du tourisme de masse, ce point-là, une démocratisation du tourisme et une accessibilité au tourisme pour des populations qui n'y avaient pas du tout accès. Donc, y a quand même plus de gens qui partent maintenant. Mais donc, du coup, il y a
aussi de redécouvrir la campagne, de redécouvrir des échanges. Cette découverte de l'agriculteur, de son mode de vie, on peut le faire en étant au Mali, on peut le faire aussi en allant en Auvergne, par
Évidemment.
Exemple. Hein, et tisser du coup d'autres types de liens, d'autres conversations. Alors il y a Accueil Paysan,
Accueil Paysan qui, je précise, est un membre associé de la thèse. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est-à-dire qu'effectivement, cette question de tourisme solidaire ici, elle est éminemment présente. C'est compliqué. Même au sein du débat interne de la thèse, c'est pas une question qui est totalement tranchée.
Mais la question, c'est l'équité des échanges. C'est peut-être une question, un parallèle qu'on pourrait faire avec le commerce équitable. Aujourd'hui, on parle beaucoup du commerce équitable Nord-Nord, c'est-à-dire se dire comment effectivement on a des échanges plus justes et comment le prix qu'on va payer pour avoir une satisfaction va être mieux, de manière plus équitable, partagée.
Oui, puis le rapport à l'humain est très présent. Et je pense qu'une des grosses motivations aussi, c'est le pendant écologique, environnemental. Je crois que ces dernières années, l'aspect carbone, empreinte carbone, c'est quand même quelque chose qui est assez rentré dans les têtes. Et nous, on a un des membres, Vision du Monde, qui a développé du coup... des séjours sous une autre marque qu'il a voulu vraiment identifier en tant que voilà, ces séjours-là sont des séjours axés sur on porte l'attention sur l'empreinte carbone qu'ont nos séjours, pas qu'il le fait pas sur les autres, mais comme sur les autres il y a de fait l'avion, c'est de fait compliqué. Du coup il a développé Écho de la Terre, où là clairement la démarche, c'est d'avoir une empreinte carbone la plus neutre possible, avec alors, il y a beaucoup la France, donc il y a l'Ardèche, les Cévennes, il y a en Provence, dans les Alpes, mais il y a aussi la Suisse, l'Autriche, le Maroc et l'Italie. Et donc, on y va en transport doux, on ne prend pas l'avion pour y aller. Même le Maroc, typiquement, c'est la proposition de ce séjour-là, c'est d'y aller en bateau. Et sur place aussi, de privilégier le transport doux. Donc, le vélo, le cheval...
Chameau.
Le chameau, exactement.
Ça te fait
rêver,
ça.
J'adorerais moi faire du chameau.
Mais en plus, c'est toujours quelque chose qui est super agréable, parce que c'est vrai que ces voyages, je m'étais fait la réflexion une fois en partant en Mauritanie, en l'occurrence, fin avril, un avril morne en France. On arrive à Attar, il fait 35 degrés. On n'a pas eu le temps de s'adapter, de prendre possession de son voyage. On parlait de la préparation tout à l'heure, et je trouve ça assez intéressant.
Si tu vas en Mauritanie en chameau, tu as plus le temps de...
On fera 6 mois devant soi, mais...
Et est-ce que c'est, pour revenir sur le prix, prix. Est-ce que c'est des voyages qui coûtent plus cher que des voyages
Sans piternelle question.
Non, parce que la
que question... j'entends bien. Hein.
Ouais, ouais,
qu'est-ce qu'on paye en fait? Qu'y a-t-il dans le prix? Est-ce qu'on inclut par exemple le prix ensuite du nettoyage ou tu vois, des dégâts environnementaux, des dégâts sociaux qui ont été causés?
Il ne faut pas tout ramener au prix.
Non, mais c'est important
s'efforce de dire en plus
de
sur cette charge.
D'intégrer les coûts cachés aussi.
Et quelle est la typologie des gens qui partent du coup?
C'est le prolongement. Oui, il y a un vrai problème chez nous, et on en est assez conscient, sur la relation entre le tourisme social et l'accès au voyage et le tourisme équitable et solidaire.
Ah, ça passe évidemment. Snobisme, non ?
Alors, on est taxé d'élitisme, mais je le rappelle, déjà, pour ceux qui peuvent partir en vacances, à l'étranger, c'est déjà de l'élitisme, pour ceux qui peuvent partir en vacances. Alors après... Ce qui est toujours difficile, alors à un point on dit que je fais la langue de bois quand je dis ça, mais c'est assez compliqué de comparer ce qui ne l'est pas. Ce qui est certain, c'est que les membres de la thèse ne pourront jamais proposer une semaine en Tunisie all included à 300 euros avec l'avion, l'hôtel, le machin, le bidule. C'est évidemment non, ça c'est pas possible. Parce qu'il y a des coûts réels qui sont payés. Par contre, c'est possible de proposer 8 jours au Maroc à 900 euros avec l'avion. Ou 5 jours, pareil, pour 600 euros. J'ai Tada qui propose ça, 650 euros, 6 jours au Maroc. Voilà. Après, c'est vrai que nous, globalement, on ne bénéficie pas d'économies d'échelle. Encore une fois, c'est des petits groupes qui partent, donc pas d'économie à ce niveau-là. On n'est pas dans des grandes infrastructures hôtelières, toujours pas d'économies d'échelle. On est plutôt pas sur des points très touristiques, donc ça veut dire que bah, pour acheminer d'un point A à un point B, ça aussi ça coûte un peu plus d'argent, et on reste souvent plus longtemps. C'est-à-dire que la moyenne des nuitées à l'international en 2009, je crois que c'est 5. C'est-à-dire que quand on part en vacances, que ce soit en vacances en tourisme d'affaires ou en tourisme de loisirs, on passe 5 jours 5 nuitées hors de chez soi. Les membres de la thèse, c'est 14 nuitées. Donc de suite, voilà, on voit bien qu'on n'est pas sur la même dimension. Donc effectivement, quand on reste 6 jours quelque part et quand on reste 14 jours quelque part, bah, le prix est de fait pas le même puisqu'on a le double de prestations touristiques. Donc voilà, c'est difficile de comparer ce qui ne l'est pas.
Bien sûr.
Mais je pense que sur... si vous voulez partir, à mon avis, en Inde, faire un trek en Himalaya, ça vous coûtera pas plus cher que de passer par un tour opérateur.
D'accord. Un voyage identique, c'est pas plus cher, quoi, en fait.
Non, le voyage sera différent parce que l'expérience sera unique.
tu l'as bien briefé.
Ouais, mais bon. Elle connaît très bien Laurent.
Donc il faut inviter nos auditeurs à se rendre sur votre site tourismesolidaire.org et ensuite ce site renvoie donc sur les différentes associations et aux différents voyages, aux différentes destinations. Il y a encore des places libres là pour l'été là,
Oui, on n'a pas. On est loin de la saturation. 2010 a été une année très difficile. Typiquement, c'est la première année où on va avoir une baisse de voyageurs. Je vous le disais, 2009, 5300 voyageurs. 2010, 4900. C'est la première année où
on est en 2011, ça démarre comment du coup par rapport à ça?
Écoutez, pour l'instant, ça a l'air plutôt d'être stable, mais là c'est vraiment au pif.
Les gens avec la crise, ils sont un peu rabattus sur les formules hôtelières promo à bas prix, quoi, c'est ça?
Il y a
un peu,
aussi
quoi.
Des crises géopolitiques.
Ah ouais, majeures, typiquement, surtout dans les zones dans lesquelles on est présent, quoi. Et il n'y a pas eu forcément de transfert. C'est vrai qu'il n'y a pas eu le transfert des voyages au Maroc vers les voyages en Équateur parce que c'est de fait pas le même prix. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de propositions. Je fais, parce que je crois qu'on est assez pressé. Aussi, il y a des formules qui sont assez innovantes. On en a parlé beaucoup pendant la quinzaine du commerce équitable. On avait fait une rencontre sur le thème voyager au plus près des producteurs de commerce équitable. Parce que maintenant, on a des partenariats qui sont en train de se nouer entre acteurs du tourisme solidaire et acteurs du commerce équitable pour proposer des séjours en plus de voyager de façon traditionnelle via nos canaux, d'aller aussi à la rencontre des producteurs de coopératives, de quinoa, de café, et du coup ça permet aussi de se rendre compte un peu comme ça d'une réalité et c'est pas, on n'a pas simplement son paquet de café qu'on achète dans le magasin, on voit l'envers du décor.
On va conclure Tu voulais
pour en savoir plus, juste peut-être inviter tout le monde à se rendre aux états généraux de l'économie sociale
exactement.
Et solidaire
au Palais voulais...
Brongniart, donc à la Bourse ce week-end.
Ça commence dès demain.
Et je crois que des membres de la thèse seront là aussi pour présenter ce qu'ils font, parce que tout ça s'intègre bien sûr dans une démarche.
Voilà, les états généraux de l'économie sociale et solidaire, c'est donc 3 jours de conférences, de débats, de concerts.
Et de fêtes aussi, voilà.
Au Palais Brongniart à Paris, donc
c'est
à la Bourse.
C'est quand même super sympa. Symbolique en plus.
C'est des rencontres, c'est des concerts, j'ai dit tout est gratuit. Le site pour s'inscrire ou venir notamment au concert, parce que pour le concert gratuit de samedi soir, il faut s'inscrire, c'est pouruneautreeconomie.fr. Donc voilà, c'est 3 jours.
Il y a une couverture en direct, même sur le site, qui sera plutôt sympathique a priori.
Des concerts organisés notamment par Fair Playlist, qui travaille justement à une rémunération équitable des artistes.
Ça sera très intéressant de les recevoir un jour, ça tient. Pas au mois de juillet, parce qu'au mois de juillet, je ne serai pas là, mais j'aurai mais un autre jour. Donc voilà, on vous a fait votre programme pour ce week-end. On a tout dit, enfin on n'a sûrement pas tout dit, mais Benoît, il y a vraiment quelque chose que vous vouliez dire et qu'on n'aurait pas eu le temps de...
Aller au Mali.
Partir en vacances.
Juste pour rebondir sur ce thème-là, on va organiser pour le mois de l'économie sociale et solidaire, donc qui se passera en novembre, on organisera une manifestation plutôt festive sur le thème pour soutenir nos partenaires de la destination des pays du Sahel, qui prendra la forme en soirée d'un concert et d'un petit village associatif. Voilà.
J'avais prévu de faire une petite parenthèse, mais je ne veux pas... très rapidement sur le congé solidaire, mais je ne veux pas embrouiller nos auditeurs parce que le congé solidaire, c'est justement une initiative beaucoup plus liée à l'humanitaire. Donc c'est quelque chose qui existe
peut-être
depuis 10 ans.
On pourra en parler
une prochaine fois
lors d'une autre émission.
Ouais. On en parlera une prochaine.
À l'année prochaine, va être riche.
Bon. Alors je vais conclure en disant que l'émission que vous écoutez en direct sera retransmise demain, vendredi à 11h, que vous pouvez également écouter l'émission et les précédentes sur zoom-ecologie.net. Que la prochaine émission du troisième jeudi de Zoom Écologie sera le jeudi 21 juillet, que je ne serai pas là, mais mes deux collaboratrices préférées seront là, et que le 11 août, nous ferons une compilation des moments musicaux.
Et on va inviter que des féministes, ça va être la fête.
Pour parler de moi, c'est bon, voilà.
Enfin, nous n'exagérons rien non plus.
Que le 11 août, une émission spéciale sur la compilation de tous les moments musicaux acoustiques que nous avons eus dans ce studio. Voilà. Merci à Cyril qui nous sauve encore la mise à la technique. Donc merci infiniment, Sophie.
Merci Cyril.
Merci.
Sophie,
merci
Laurence. Merci Benoît, c'est beau.
Merci à vous.
Je renvoie encore une fois à votre site tourismesolidaire.org. On écoute et on remercie encore Loki Starfish et on écoute donc le premier morceau de leur album qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais enfin c'est le premier morceau. Les gens ont qu'à acheter l'album, hein, c'est dans 3 jours. Donc achetez l'album et on écoute ça.
Et
merci.
Bonnes vacances alors.
Et voilà, bonnes vacances.
Le morceau c'est Scars and Promises.
So now I feel the loss of a thousand and my back is covered with black wounds. That's the only way I found to bleed this out. Oh, that's the only way I found to bleed this out. That's the only way I found to bleed this out. To bleed this out. That's the only way I found to bleed this out. This out. This is a song. I had to cry scars on my back and hush promises. That's the only way I found to bleed all this. Oh, that's the only way I found to bleed all this. That's the only way I found to bleed all this. To bleed all this. That's the only way I found to bleed all this. All this. Scars on my back and hush promises. Scars on my back and hush.
fresh promises. Skies on my back and hash promises.